Bonsoir, comment allez-vous? Eh bien mes enfants, quelle semaine! Les Parisiens, qui sont, comme vous le savez, les gens les plus intelligents du monde, ont été bien pris au dépourvu quand la bise et les flocons furent venus. Tout s'est un peu arrêté. Les écoliers jubilaient pendant que les adultes s'inquiétaient. Pour vous dire à quel point leur était grave, on s'est parlé et même un peu aidé entre Parisiens, vous vous rendez compte? Mais c'était tellement jolie la neige que je suis partante pour revivre ça tout de suite. Tout ce blanc lumineux, propre, neuf, parfait. Sous la neige, tout est doux, tout est beau. C'est curieux qu'on trouve ça si beau, car finalement, on ne voit rien, rien que du blanc. Alors pourquoi est-ce que ça nous enchante à ce point? Peut-être justement parce que c'est parfait. Zéro défaut, rien ne dépasse. Cette perfection, c'est un fantasme. Rien ni personne n'est parfait. Dans son livre « J'arrête d'être parfaite » aux éditions Erol, Sidney Guys nous suggère, plutôt que de courir après la perfection, de lister ce qu'on fait déjà de bien, de se donner le droit d'échouer et de se rappeler toutes les grandes réussites qui ont été précédées de cuisants échecs. Et pour finir, elle cite André Mauroy. « Le perfectionniste est l'homme qui a, non pas une solution pour chaque problème, mais un problème pour chaque solution. »
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi la neige est blanche. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Vélie, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi la neige est-elle blanche.
Bonsoir Arthur et Vélie. Samuel Morin, vous êtes directeur du Centre d'études de la neige à Grenoble. Vous êtes chercheur en physique de la neige. Vous dépendez de Météo France et du CNRS, dont vous avez reçu la médaille de bronze en 2017. Ont-ils raison seulement? La neige est-elle vraiment blanche? Ont-ils raison Arthur et Vélie?
Arthur et Vélie, ils font une constatation qu'on fait pour la plupart d'entre nous, qui est de constater que la neige, quand on la voit, elle est blanche. Mais ça, ça ne suffit pas. Une fois qu'on l'a vue, il faut l'expliquer. La neige est blanche. Ça va peut-être vous surprendre un petit peu, parce que le soleil nous envoie une lumière qui est une lumière blanche.
Ah.
Et la neige, c'est un matériau qui est assez fascinant, qui est constitué de cristaux de glace, qui sont empilés et accumulés les uns au-dessus des autres, qui se transforment au cours du temps, mais qui ont la caractéristique de pouvoir nous renvoyer une partie de la lumière du soleil, et ce, dans toutes les directions. C'est-à-dire que chaque rayon de lumière qui arrive du soleil va pénétrer un petit peu dans le manteau neigeux, va rebondir, si je veux m'exprimer ainsi, sur les cristaux, ce qu'on appelle la diffusion. Il va diffuser dans le milieu un nombre très important de fois, avant de repartir vers l'atmosphère, ce qui nous permet de voir la neige. Si la neige absorbait toute la lumière, on ne pourrait pas la voir. Et ce faisant, même si les cristaux de glace sont intrinsèquement plutôt d'une couleur bleue, si on avait vraiment de la glace, quand on voit la glace d'un glacier, quand on la regarde de travers, elle est bleue. La couleur de la glace, ouais. Du fait de ses propriétés optiques, elle est plutôt bleue. Mais à cause des rebonds multiples de la lumière dans le manteau neigeux, finalement, la lumière qui nous parvient, c'est une couleur qui correspond à la couleur de la lumière qui lui parvient. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui est en général blanche. C'est pour ça que la neige est blanche, parce que la lumière du soleil qui l'illumine et qui nous permet de la voir est une lumière blanche. Au coucher du soleil, ou au lever du soleil, pour ceux qui ont la chance de voir la montagne à cette période de la journée, la lumière transformée par l'atmosphère, la lumière du soleil, est une lumière rose, orangée, etc. Et dans ce cas-là, la neige prend cette couleur aussi. Quand on observe une montagne au lever du soleil, la montagne prend la couleur, quand elle est enneigée,
elle est rose.
L'atmosphère. Elle est rose, elle est orange, et c'est absolument magnifique. Et en fait, la neige, intrinsèquement, elle n'a pas une couleur en propre, quelque part. Et si on prenait les cristaux un par un, ils seraient plutôt bleutés. Mais du fait de l'assemblage des grains de neige les uns par-dessus les autres, etc., finalement, il nous reflète, il nous rediffuse la lumière telle qu'elle est émise par le soleil et telle qu'elle est transformée dans l'atmosphère.
Donc finalement, la neige n'est pas vraiment blanche. D'ailleurs, quand on la prend dans nos mains, cette boule de neige, elle ne nous laisse pas de traces blanches sur les doigts. Ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons combien d'heures par semaine travaillaient les employés de Louis XIV à Versailles. Qui a inventé le code de la route? Si un homme de Néandertal peut se marier avec une femme moderne? Et vous savez que mercredi, nous serons le jour de la Saint-Valentin.
Bonjour Myriam, 20 ans. Voilà ma question. Si j'ai vraiment l'impression que je plais à quelqu'un que je viens de rencontrer, est-ce qu'en fait je peux me tromper? Merci de votre réponse, au revoir.
Merci Myriam pour la question, parce que je crois que tout le monde se l'est posé. Lubomir Lamy, professeur de psychologie sociale à l'Université Paris-Descartes.
La loi générale, c'est une loi de cécité émotionnelle. Nous sommes peu enclins à découvrir la vérité des sentiments des autres à notre égard. Par exemple, ça a été démontré sur des expériences de speed dating. Bon, donc, sur du speed dating, les gens, en général, rencontrent plusieurs personnes consécutivement et ensuite disent « j'aimerais beaucoup », alors ils connaissent ou le prénom ou un numéro du contact, « j'aimerais beaucoup rencontrer à nouveau Myriam, si elle s'appelait Myriam, Jessica, mais pas les autres ». Dans une expérience, on avait procédé de la façon suivante. On demande aux participants, hommes et femmes, à l'issue de ces rencontres, là c'était sur une durée de 4 minutes à chaque fois, d'exprimer leurs sentiments. Est-ce que votre interlocutrice ou votre interlocuteur vous a plu? À quel degré? On demande une évaluation chiffrée sur une échelle, par exemple, de 1 à 9. Et est-ce que vous aimeriez rencontrer à nouveau cette personne? Et évidemment, ce que les auteurs ont fait, c'est de croiser les impressions de l'un et de l'autre. Et donc là, on s'aperçoit que la cécité émotionnelle est le cas le plus fréquent. C'est-à-dire que la plupart des gens disent « telle personne m'a énormément plu et je suis sûr
que je lui ai plu.
Moi, elle me plaît et j'ai dû lui plaire. » Quand on croise avec les impressions de l'interlocutrice, elle dit « non, il m'intéresse pas, j'ai aucune envie de le revoir. » Et l'inverse se trouve très souvent, c'est-à-dire des gens qui disent que telle personne leur plaît, qu'ils aimeraient la revoir, mais ils disent « bon, je pense vraiment pas l'avoir marqué, l'avoir bouleversé. Elle s'intéressera pas à moi. » Mais quand on demande l'avis de l'intéressé, elle dit « mais si, j'aimerais beaucoup le revoir. »
Alors, quelle est votre explication, Lubomir Lamy? Est-ce parce qu'on masque quand on est amoureux, on a envie de faire comme si on était indifférent?
Alors, ça peut être le cas parfois. Dans le cas du speed dating, j'en suis pas certain malgré tout, parce que les gens ont envie de rencontrer quelqu'un, ont envie d'établir un contact. Ils sont là pour ça. Mais ceci dit, c'est vrai, je dirais, davantage des femmes que des hommes. Les femmes masquent davantage, plus souvent, plus facilement. Donc ça se voit très bien au niveau du comportement non-verbal. Les femmes vont laisser paraître, à la limite, je dirais, en début de relation, rien. Elle reste réservée et il y avait une étude qui montrait que plus la femme est intéressée potentiellement par un partenaire, moins elle montre son sentiment. Elle parle plus librement, elle est plus détendue, plus spontanée, elle dit davantage de choses sur elle-même, elle est moins contrainte, un peu moins guindée, vous voyez. Et donc le partenaire va avoir l'impression qu'il y a déjà quelque chose entre eux. Et dans le cas contraire, celle qui a un début de sentiment, qui se dit « ça c'est quelqu'un qui serait possible, un partenaire possible », celle-là reste longtemps réservée, très prudente. Les femmes sont plus prudentes que les hommes en début de relation. Donc ça masque le message, et comme en plus de ce phénomène, les hommes ne sont pas les champions du monde du décodage non-verbal, les femmes ont en moyenne une aptitude légèrement supérieure dans ce domaine. Les hommes vont se trouver relativement démunis pour faire du décodage émotionnel.
Merci au professeur Lubomir Lamy, spécialiste des fonctionnements de l'amour qui sont bien compliqués. Je me demande si le fait de se savoir aimer par quelqu'un ne rend pas ce quelqu'un qu'on n'avait pas forcément remarqué aimable.
Je m'élance et je danse en silence, si langoureusement qu'on me pense bien plus long. À mille temps, souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue houlument. Si le vin blanc me tente dans mon palais, je tangue gaiement. Éloquent, sous.
chanson qui s'appelle Langue, après avoir évoqué le speed dating, c'est rigolo. Langue de vipère, langue de chat, c'était la chanteuse Camille.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions, on peut les laisser poser leurs questions tout seuls. Le répondeur est extrêmement patient. Il est au 01 56 40 43 57. Et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi l'homme de Néandertal a disparu.
Bonjour, je m'appelle Eva. Les Néandertaliens pouvaient-ils avoir des enfants avec les Cro-Magnons ?
Chapeau, Judith et Eva, et Néandertal et Cro-Magnon, dites donc, c'est des notions qui ne sont pas si simples. Evelyne Ayer, vous qui nagez là-dedans, puisque vous êtes professeure en anthropologie génétique au muséum, alors est-ce qu'elles ont raison déjà, Judith et Eva ?
Ah ben déjà, elles ont raison, oui, l'homme de Néandertal a disparu. C'est finalement notre plus proche cousin qui a habité dans toute l'Europe et l'Asie entre environ moins 300 000 ans et moins 30 000 ans. Et effectivement, il y a environ 30 000 ans, l'homme de Néandertal disparaît. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'ADN qu'on a pu analyser de l'homme de Néandertal, ce qu'on appelle analyser de l'ADN ancien, parce que on a analysé l'ADN des squelettes d'hommes de Néandertal qui sont très anciens.
Donc vous avez retrouvé les squelettes de cet homme qui a disparu ?
Ah oui, on a plusieurs squelettes de l'homme de Néandertal. D'ailleurs, les plus beaux sont au musée de l'homme. Il faut venir les voir, on vous les présente.
On ira.
Et alors, ce qui est super, c'est que les scientifiques sont arrivés à analyser l'ADN de ces hommes de Néandertal. Et en regardant dans le détail l'ADN de l'homme de Néandertal et en le comparant à l'ADN de nous, l'homme moderne, on a pu voir qu'on avait tous, à l'extérieur de l'Afrique, on a tous un petit peu d'ADN de l'homme de Néandertal. Et ça, ça montre que l'homme de Néandertal, il pouvait se croiser avec l'homme de Cro-Magnon. Autrement dit, quand ils se sont rencontrés, c'est-à-dire quand notre espèce, l'homme moderne, qu'on appelle Cro-Magnon en Europe, sort d'Afrique, il arrive en Europe. Et il y a déjà l'homme de Néandertal qui, lui, était sorti plusieurs centaines de milliers d'années avant. Et on a pu montrer avec l'ADN que ces deux espèces, donc Néandertal, notre cousin, et nous, notre Cro-Magnon, on a pu se croiser, on estime, il y a environ 60 000 ans, ils se sont croisés et ils ont eu des descendants.
C'est nous.
C'est nous. Donc on a tous un petit peu de Néandertal en nous, ceux qui sont sortis d'Afrique.
La première contrée de la planète Terre à avoir été peuplée, c'est l'Afrique.
Ah oui, on vient d'Afrique. L'homme moderne apparaît en Afrique. L'homme de Néandertal est issu d'une sortie d'Afrique d'avant. Et il y a eu d'autres sorties d'Afrique. En fait, l'homme, en grosso modo, à partir de 2 millions d'années, il y a des espèces d'hommes, des Homo erectus, on leur donne à chaque fois des noms différents, mais il y a régulièrement des sorties d'Afrique. Et la dernière, c'est celle de notre espèce.
Qui est sorti d'Afrique pour aller où en Europe ?
Alors nous, on est sorti d'Afrique il y a environ 60 000 à 100 000 ans. On colonise l'Australie, déjà, puis la Chine, l'Europe et plus tard l'Amérique. Alors la Chine, il y a des recherches qui ont montré il n'y a pas très longtemps qu'on a trouvé des restes plus anciens que ce qu'on pensait. Donc elle a peut-être été colonisée, peut-être avant l'Australie, c'est encore débattu.
Mais de toute façon, les Chinois viennent d'Afrique.
Les Chinois viennent d'Afrique, tout le monde vient d'Afrique.
Je ne sais pas si nous avons tous quelque chose de Tennessee, mais nous avons tous quelque chose de Cro-Magnon. Vous pouvez réécouter cette réponse d'Evelyne Ayer sur franceinter.fr et vous pouvez également trouver l'actualité du Muséum d'Histoire Naturelle.
Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 11 ans, j'habite à Lambesque et je voudrais savoir qui c'est qui a inventé le code de la route. Merci, au revoir.
C'est nous qui te remercions, Sophie, pour cette pertinente question. Jacques Nouvier, vous êtes l'auteur de La signalisation routière en France, de 1946 à nos jours, chez AMC Éditions. Alors, qu'est-ce qui a inventé le code de la route, demande Sophie ?
Alors, en fait, on a l'impression que le code de la route, il a toujours existé.
Bah ouais.
Et en fait, on peut dire à Sophie que le premier code officiel français, ouais, il date de 1921, moins de 100 ans. C'est absolument incroyable.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Ben oui. Donc, il a été officialisé en 1921, mais il y a eu des tas de choses qui l'ont précédé. Alors, les premières voitures, vous voyez, c'est à peu près 1880. Et dès 1893, il y a eu un texte disant en France que la vitesse des voitures, elle devait être limitée à 20 à l'heure en race campagne et à 12 à l'heure en ville.
Oh, c'est génial.
Et puis, en 1899, on a augmenté un petit peu ces vitesses jusqu'à 30 et 20. Oui, voilà.
Quand nous disons voiture, bien sûr, ce sont les voitures à moteur.
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis alors en 1903, la catastrophe, il y a eu la course automobile Paris-Madrid. Et rien que pour la première étape, Paris-Bordeaux, il y a eu 8 morts. Donc là, les autorités ont dit, on arrête tout, on arrête la course d'abord, et puis on crée une commission pour quand même réfléchir à tout ça. Et puis après, il y a une deuxième commission qui a été créée en 1909 pour justement faire un code de la route. Sauf que la guerre est arrivée et le code n'y était pas fini. Et donc c'est pour ça qu'il est sorti qu'en 1921. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que on n'a quand même pas vécu sans règles du tout jusqu'à 1921. Parce que il y a eu un premier code de la route qui a été fait par l'Automobile Club de France. Alors ce code, il comportait 6 pages en 1905. Il traitait des croisements et des virages, mais aussi de la conduite à tenir en cas d'accident ou de panne d'essence.
Ah,
où vous deviez donner de l'essence ou vendre de l'essence si quelqu'un était en panne d'essence.
Ça, oui, c'est écrit.
Absolument, absolument.
C'est bien.
Et puis, il y a les initiatives des frères Michelin. Donc les frères Michelin, ils ont fait le premier guide en 1900, l'installation de panneaux à l'entrée et à la sortie des villages juste après. Ils ont fait ensuite, bien entendu, les grosses signalisations que vous connaissez. Ils ont fait les cartes, etc. C'est des gens qui ont eu une importance énorme là-dedans. Mais pour se limiter au code de la route, puisque telle était la question de Sophie, c'est donc en 1921 qu'on a eu le premier code officiel.
Pendant que Jacques Nouvier parlait, je pensais à quelque chose d'affreux dont je ne devrais pas me vanter. C'est que j'ai l'impression que les panneaux du code de la route, eh ben, je les connais pas tous, et loin de là en plus. They wreak of tropical charms, the embassies lie in hideous yards where tourists snore and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. You're out of luck, you're singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We love it. You've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and live love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in fake hotels. C'est beau parce que c'est d'un saint et on en a bien besoin le dimanche soir. Tropicalia, c'était Beck. Savez-vous comment ça se passait au château de Versailles avec tous ses habitants et forcément tous ses travailleurs?
Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir combien d'heures par semaine travaillent les employés à Versailles sous Louis XIV et est-ce qu'ils avaient des vacances et une retraite? Merci, au revoir.
En voilà des questions pour vous, Mathieu Davigna, historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles. Les questions de Maya.
Oui, alors, en fait, ce qu'il faut comprendre à Versailles, c'est quand on est logé à Versailles, c'est qu'on est forcément un employé. Alors, qu'on soit un petit marmiton, un petit cuisinier, ou même un duc et pair, c'est-à-dire un noble très important, si on n'est pas le roi, la reine ou la famille royale, eh ben, on est un employé à Versailles. C'est-à-dire que pour être logé à Versailles, il faut avoir une fonction auprès de l'un des membres de la famille royale. Alors, tout le monde est domestique à Versailles. Alors après, évidemment, il y en a qui travaillent beaucoup plus que d'autres. Le cuisinier va travailler beaucoup plus longtemps, et en tout cas, beaucoup plus durement que le duc qui présente, par exemple, la chemise le matin au roi lors de son lever. Alors, il travaille en général, on n'est pas aux 35 heures d'aujourd'hui, on est à peu près à du 11 heures par jour. Et ils sont bien évidemment payés, puisque même si c'est un honneur de travailler pour le roi, on ne travaille pas gratuitement à la cour de Versailles. Et donc, les cuisiniers, par exemple, travaillent dans ce qu'on appelait le grand commun, c'est-à-dire le bâtiment des officiers, c'est-à-dire de tous les employés, des petits valets de chambre, des petits valets de garde-robe, tout ce petit personnel qui s'occupe du roi. Il y a quand même 1300 personnes qui sont au service quotidien du roi. Et
c'est
donc,
énorme.
Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Et on sait qu'il y avait à peu près 100 personnes à la cuisine par jour, rien que pour le roi. Et à peu près 150 personnes d'autres cuisiniers au sens large pour le reste de la cour. Donc ce sont des gens qui travaillent à peu près entre 10 et 12 heures par jour suivant les saisons. C'est-à-dire qu'on travaille plus longtemps l'été et moins longtemps l'hiver.
Il y avait plusieurs cuisines ?
En fait, il y avait plusieurs cuisines. Les cuisines du roi et de la reine sont dans l'enceinte même du château pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que la viande, ce qu'on appelle la viande, c'est-à-dire la nourriture du roi, ne doit pas sortir du château. Donc, alors que la nourriture qui est préparée pour le reste des courtisans est préparée dans une dépendance, juste à côté du château, mais ce n'est pas dans le château même. Et donc, tous ces gens qui travaillent ont une sorte de retraite, en tout cas, ils peuvent obtenir une sorte de retraite, c'est-à-dire qu'à un certain âge, le roi peut leur accorder le droit de se retirer, et puis ils ont des pensions. Ou alors, et assez étonnamment, on trouve des gens aussi qui ont travaillé toute leur vie pour un prince, une princesse, et qui, après, conservent leur appartement jusqu'à leur mort, même s'ils ne servent plus le maître ou la maîtresse qui servait.
Et leur appartement, les logements donc de ces cuisiniers, ils sont dans l'enceinte du château ?
Ils sont essentiellement dans une dépendance qu'on appelle le grand commun, qui est tout de suite à l'extérieur du château. Et ce sont des gens qui, en général, travaillaient par trimestre. C'est-à-dire qu'ils changeaient tous les trois mois. Ce sont des charges qui sont multiples. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de cuisiniers qui travaillent trois mois. Et puis trois mois après, vous avez un nouveau contingent, entre guillemets, qui arrive et qui fait le rôle de cuisinier.
Mais qu'est-ce qu'ils font, les autres,
Alors après, ils repartent dans leur maison, soit à Paris, soit dans leur province.
Mais ils trouvent du travail ?
En général, ce sont des gens qui sont importants dans leur village. Ils sont petits seigneurs, c'est-à-dire qu'ils ont une petite seigneurie et donc ils touchent eux-mêmes des revenus sur leurs terres, etc.
Même les cuisiniers. Mathieu Davina a écrit, entre autres, au service du roi dans les coulisses de Versailles et c'est édité chez Talendier. En fait, ils avaient des CDD, trimestre par trimestre, les employés à Versailles. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. N'oubliez pas de visiter notre site. Merci à Julien Michel, Marjorie Devoux, Pou, Eliane Girard, Noël Bréham, Jean-Baptiste Audibert. Je vous ai tout dit. Ah et non, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h30. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.